et pour nous réécouter sur odysseeduRythme.com.
Bonjour à tous, jeudi 28 juillet, bienvenue dans cette édition du Débrief, il est 16h. En interview aujourd'hui, l'auteur, compositeur, interprète montréalais Matt Stern, qui passe l'été à Victoria et s'affaire à peaufiner un album qu'il va bientôt lancer. Vous pourrez entendre cette interview avec Matt vers 16h40. Pour l'heure, on saute tout de suite dans le vif des infos avec les bulletins de Denis Lépine. On se retrouvera de l'autre côté dans quelques minutes avec les nouvelles provinciales, entre autres. Bonjour à tous les auditeurs, merci de choisir CILS FM 107,9. Mardi 2 août, il est 16h et des poussières, c'est Alexis Gagnon qui vous parle. J'espère que votre long week-end a été très agréable et que vous avez pu profiter du beau temps. Je suis avec vous jusqu'à 17h dans le Débrief, votre rendez-vous quotidien en info du lundi au jeudi. Ça commence tout de suite. Aujourd'hui, en interview, nous retrouvons le professeur Emmanuel Brunet-Jailly, qui nous livre son analyse de la situation politique et géopolitique en Turquie. Restez à l'écoute, ce sera vers 16h40. En attendant, on ouvre avec les bulletins d'infos de notre collaborateur Denis Lépine. Au retour, dans quelques minutes, on poursuit avec les infos provinciales, entre autres. La production du Débrief est rendue possible grâce à la contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. La Commission canadienne de sûreté nucléaire tiendra une réunion publique à Ottawa les 14 et 15 décembre. La Commission a confirmé que son personnel présentera le rapport de surveillance réglementaire des installations de gestion, de stockage et de traitement des déchets au Canada en 2015. Le rapport présente l'évaluation effectuée par le personnel de la Commission. Il s'agit du tout premier rapport annuel de la Commission dans ce dossier. Le rapport porte notamment sur la radioprotection, la protection de l'environnement et la santé, de même que la sécurité classique. L'Office national de l'énergie a revu les montants d'argent qui seront admissibles aux intervenants à l'audience du projet Énergie Est. Le montant est passé de 5 à 10 millions de dollars et la première étape du processus d'audience, qui débute ce mois-ci, aura lieu dans 10 localités du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, et ce jusqu'en décembre. L'Office a aussi souligné qu'il s'agit du plus gros montant jamais consenti dans le cadre du programme d'aide financière aux participants. 337 demandeurs et 271 auteurs de lettres ont obtenu le statut d'intervenant. C'est au tour de John McCain de tenter de ramener à l'ordre Donald Trump dans le dossier qui a vu l'homme d'affaires émettre des commentaires à l'endroit de la famille d'un soldat américain musulman tombé au combat. Le sénateur républicain a dit dans un communiqué qu'il est temps pour Donald Trump de donner l'exemple au pays et au parti républicain. McCain a ajouté que même s'il est le candidat à la présidentielle, cela ne lui donne pas le droit de diffamer les meilleurs d'entre nous. Rappelons que Trump a attaqué la famille du soldat Khan sur les médias sociaux et à la télévision. Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères, a fait le point sur sa visite au Sri Lanka. Il a déclaré avoir vu des signes prometteurs de progrès et insisté sur la nécessité d'en faire beaucoup plus dans les domaines des réformes constitutionnelles, des droits de la personne et de la réconciliation pour tous les peuples de l'île. Il a dit aussi avoir été profondément ému d'entendre de vive voix le témoignage des personnes qui ont souffert de la guerre civile. Il a également annoncé deux projets pour stimuler le secteur commercial du Sri Lanka. Scott Bryson, président du Conseil du Trésor, s'est prononcé sur l'utilisation des services d'informatique en nuage. Il a dit que les Canadiens s'attendent à ce que le gouvernement s'appuie sur les technologies existantes pour améliorer la prestation des services. Il a dit aussi que l'informatique en nuage aidera le gouvernement du Canada à être plus agile dans ses activités et à être plus judicieux dans ses dépenses et à répondre aux besoins des Canadiens au fur et à mesure qu'ils évoluent. Il est bon de rappeler que les gens peuvent faire des commentaires sur le sujet jusqu'au 30 septembre. Les opérations de la garde côtière canadienne dans l'Arctique se poursuivent. Le gouvernement Trudeau a indiqué dans une dépêche que les travaux permettent d'améliorer la sécurité maritime et de maintenir une présence fédérale continue dans les eaux arctiques. 8 brise-glaces sont déployés cette année. Les priorités des opérations sont notamment les services de déglaçage et d'escorte destinés au trafic maritime. David Johnston, gouverneur général du Canada, marquera plus tard aujourd'hui le début des travaux de restauration qui seront entrepris devant Rideau Hall. Il sera accompagné de Mark Christmanson, premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale. Ils prononceront une allocution cet après-midi. Il est à noter que Rideau Hall demeurera ouvert au public durant les travaux qui devraient se terminer en 2017, soit pour le 150e anniversaire du Canada. Les Canadiens devraient éviter d'utiliser les écrans solaires de marque personnelle Lactobacillus et Micrococcus. Santé Canada lance ainsi le message en raison d'une contamination microbienne. Santé Canada a précisé que les infections de la peau ou encore la septicémie sont possibles dans ce cas-ci. Santé Canada supervise le rappel. Au sport au baseball majeur, victoire de Houston 2-1 contre Toronto. Le match a nécessité la présentation de 14 manches. Jays et Astros s'affronteront à nouveau ce soir. Toujours au baseball, eh bien les Blue Jays ont bougé. Ils ont fait l'acquisition du lanceur Scott Feldman en échange d'un lanceur de ligue mineure, Guadalupe Chavez. Et Toronto a également acquis le lanceur Mike Bolsinger en retour du releveur Jesse Chavez. Et au football canadien, les Alouettes de Montréal ont libéré le quart arrière Brandon Bridge. Âgé de 24 ans, Bridge était devenu en 2015 le premier quart arrière canadien à jouer dans la Ligue depuis Danny Brannagan en 2010.
C'était Denis Lépine et les bulletins d'information du jour. Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9 dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien du lundi au jeudi. C'est Alexis Gagnon qui est avec vous jusqu'à 17h. On va à présent se tourner vers les nouvelles provinciales. Je vous mentionne en passant qu'on a 21 degrés actuellement au centre-ville, 19 degrés à l'aéroport à proximité de Sydney. Je vous parle en premier lieu d'accusations de terrorisme et en fait d'une condamnation qui avait été remise en 2015, mais qui vient d'être annulée. La Cour suprême de Colombie-Britannique a estimé vendredi 29 juillet que la GRC avait manipulé et piégé un couple de Britanno-Colombiens déclarés coupables en 2015 d'activités terroristes. La Cour a ordonné leur remise en liberté immédiate. Dans un jugement inédit, la haute juridiction de la province a vivement blâmé la GRC pour l'instrumentalisation de deux marginaux afin de les présenter comme des djihadistes. John Nuttall, 41 ans, et son épouse Amanda Corodi, 33 ans, ont été accusés en 2015 d'avoir préparé des engins explosifs avec l'objectif de faire le maximum de victimes lors des célébrations de la fête nationale du Canada de 2013. En 2013, la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, alertée par les services de renseignement, avait placé sous surveillance M. Nuttall, qui était soupçonné de vouloir acheter du nitrate de potassium. M. Nuttall, un marginal et ancien toxicomane, a été ensuite contacté par des agents infiltrés. Pendant 5 mois, l'opération policière de la GRC a monté 28 scénarios allant d'un simple appel téléphonique à des rencontres complexes sur plusieurs jours, a rappelé la Cour suprême de Colombie-Britannique. Cette opération s'est terminée au matin du 1er juillet 2013 avec la pose de 3 autocuiseurs avec des détonateurs désactivés devant le Parlement provincial et l'arrestation du couple Nuttall-Corodi. Donc la juge a vivement blâmé la GRC. La police, a-t-elle écrit, n'a pas le droit d'ouvrir une enquête à moins d'avoir un soupçon raisonnable. Or, la police avait très peu de preuves au début de l'opération d'infiltration pour soutenir tout soupçon raisonnable que M. Nuttall avait déjà été engagé dans des activités criminelles. En donnant raison au couple, la juge Catherine Bruce a qualifié de circonstances exceptionnelles l'abandon des charges en raison d'un abus de procédure au motif que l'écart de conduite de l'État, à savoir l'écart de conduite de la GRC, porte atteinte à l'intégrité de la justice. Donc la GRC dans cette affaire, qui avait joué le rôle de metteur en scène et directeur d'acteur, les individus en cause n'avaient pas formulé l'intention et avaient encore moins démontré la capacité de mener de telles actions terroristes. Et c'est ce que la Cour suprême de Colombie-Britannique a déterminé. On va à présent parler de la crise immobilière qui sévit en Colombie-Britannique. Elle a bien sûr d'autres... Il y a d'autres crises au Canada dans l'immobilier, notamment à Toronto. Et certains observateurs se demandent si la taxe immobilière de 15% qui a été imposée récemment, elle entre en vigueur d'ailleurs aujourd'hui, cette taxe de 15%. Donc certains observateurs se demandent si cette taxe imposée aux acheteurs étrangers influencera le marché de l'immobilier à Toronto de l'autre côté du pays. Certains observateurs pensent que cette taxe de 15% dans la région de Vancouver, une taxe qui est imposée aux acheteurs étrangers, aura pour effet de diriger ces mêmes acheteurs vers le marché torontois. C'est un article qui en fait état donc dans le portail de Radio-Canada en collaboration avec la presse canadienne. Donc plusieurs analystes et économistes pressent actuellement le gouvernement ontarien d'emboîter le pas à la Colombie-Britannique et d'imposer une surtaxe aux acheteurs étrangers. Toutefois, le ministre des Finances de l'Ontario, Charles Souza, a dit vouloir d'abord analyser la situation et étudier l'impact que la nouvelle taxe aura dans la région de Vancouver. Donc cette taxe, je le rappelle, qui entre en vigueur aujourd'hui, 15% supplémentaire pour les acheteurs étrangers, c'est destiné à calmer le marché de l'immobilier. Autrement, une nouvelle importante qui concerne la province, mais le monde entier. Les indicateurs clés du changement climatique ont atteint des niveaux records en 2015. Les températures, la montée des eaux et les émissions de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux records l'an dernier, faisant de 2015 la pire année de l'histoire moderne. Pour une série d'indicateurs clés sur le climat, révèle aujourd'hui un rapport international de référence. C'est un document de 300 pages à la rédaction duquel ont participé 450 scientifiques du monde entier. Donc, un rapport qui, espérons-le, sera lu par nos gouvernements provincial et fédéral. Autrement, un petit mot sur le site C du barrage que prévoit bâtir BC Hydro. De vives critiques sont adressées actuellement au gouvernement fédéral suite à l'approbation qu'a donné Justin Trudeau et son gouvernement au projet site C de barrage hydroélectrique. Donc, les Premières Nations, des propriétaires terriens ainsi que des groupes environnementalistes accuse Justin Trudeau d'avoir brisé la promesse qu'il avait faite durant la campagne électorale de l'été 2015. Justin Trudeau s'était effectivement engagé à instaurer un moratoire, oui, sur la construction de ce barrage hydroélectrique appelé le site C. Donc c'est sur le portail de CBC actuellement, vous aurez plus de détails. Radio-Canada a également une dépêche sur le sujet. Rappelons que le site C, c'est un projet hydroélectrique d'un budget de 9 milliards de dollars et ça prévoit bien sûr une inondation majeure dans la région de Peace River. En terminant ce segment provincial, un petit message d'intérêt public. N'oubliez pas d'éteindre les feux de camp. C'est BC Wildfire qui vous fait cette demande avec une certaine insistance puisque les feux de camp peuvent représenter un danger très très important et se transformer en incendie de forêt. Donc le service des incendies de la Colombie-Britannique, BC Wildfire, avertit les campeurs d'éteindre leur feu de camp après avoir trouvé des dizaines de feux mal éteints au cours de la longue fin de semaine qui vient de se terminer. Les pompiers ont éteint environ 58 feux de camp qui avaient été abandonnés par des amateurs de plein air à travers la province au cours des trois derniers jours, selon le porte-parole de BC Wildfire, Ryan Turcotte. Ryan Turcotte a souligné que tout amateur de plein air qui veut faire un feu à ciel ouvert doit avoir avec lui une pelle ou 8 litres d'eau à proximité pour bien éteindre les flammes. C'est une idée fausse, largement répandue, a-t-il dit, que le feu est correctement éteint une fois que les flammes ont disparu. Il faut vérifier que les cendres sont froides avant de quitter les lieux. Toute personne qui laisse un feu de camp sans surveillance est passible d'une amende allant jusqu'à 1 150 $. Je vous le disais, on a actuellement 19 degrés à l'aéroport de Victoria, 21 degrés au centre-ville. On va faire une petite pause musicale avec un artiste qui nous a rendu visite la semaine dernière. Il s'agit du Montréalais Matt Stern, un auteur, compositeur, interprète qui passe l'été à Victoria. Il est venu nous parler la semaine dernière du travail qu'il fait actuellement à peaufiner son nouvel album qui sortira très prochainement. On écoute donc la pièce « Dis-moi que tu m'aimes » et on se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles du jour. À tout de suite.
Le ciel est beau ce soir. On est tout seul ce soir. Et moi j'aimerais savoir quelque chose de toi. On a du temps à perdre. On a des plans à faire. Mais juste avant que le jour commence une autre fois, prends le temps de le dire, parce que parfois je ne vois pas. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'en supplie.
La lune brille ce soir.
pas une lumière
qui éclaire mon chemin vers toi.
Prends le temps de le dire, c'est doux mot si paisible.
Prends le temps de le dire,
c'est doux mot si fragile.
Matt Stern avec la pièce « Dis-moi que tu m'aimes » dans le débrief. Merci d'être à l'écoute. On va passer à présent aux nouvelles du jour. Il y a plusieurs nouvelles qui ont attiré notre attention. On va essayer de les citer toutes. On va commencer avec une nouvelle concernant les femmes autochtones tuées ou disparues. L'enquête est lancée ces jours-ci. La ministre fédérale des Affaires autochtones, Caroline Bennett, doit rencontrer ce soir des familles de femmes et de filles de Première Nation assassinées ou disparues au Canada avant de mettre formellement sur les rails dans les prochains jours la commission d'enquête nationale. Cette annonce devrait mettre un terme au rôle du gouvernement fédéral dans la définition du cadre de référence de la commission. Ce sera ensuite aux commissaires de prendre la relève et d'amorcer leurs travaux. On s'attend à ce que Ottawa annonce mercredi la nomination, mercredi demain, donc demain 3 août, annonce la nomination de 5 commissaires. La commission d'enquête aura le pouvoir d'assigner des témoins et de les contraindre à déposer des preuves. Le gouvernement fédéral a réservé pour l'instant 40 millions de dollars sur 2 ans pour les travaux de cette commission, mais la ministre Bennett a déjà indiqué que ce budget pourrait évoluer. Les consultations préalables ont permis de dégager certains grands axes pour les travaux de la commission, à savoir les pratiques policières, le système judiciaire, le rôle du colonialisme et des pensionnats pour autochtones, de même que la pauvreté endémique dans plusieurs communautés des Premières Nations. Donc voilà, c'est repris par plusieurs médias. Vous aurez de plus amples informations dans les grands médias, notamment Radio-Canada. Autrement, je vous parle d'une décision qui concerne la Cour suprême du Canada. Les futurs juges devront être bilingues et triés par un comité indépendant. Un comité consultatif indépendant sera dorénavant chargé de trier les candidats pressentis pour devenir juge à la Cour suprême, qui devront par ailleurs obligatoirement parler français, a annoncé le gouvernement Trudeau aujourd'hui. Ce comité, qui sera présidé par l'ancienne première ministre conservatrice Kim Campbell, comme 7 membres, dont 4 nommés par des organisations professionnelles indépendantes liées au droit. Liliana Pereza, la présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, est la seule membre du Québec au sein de ce comité. Le comité recommandera une liste comptant de 3 à 5 personnes des candidats qualifiés et effectivement bilingues qui proviennent de tous les horizons et qui ont vécu des expériences diverses dans laquelle le premier ministre pigera ensuite pour faire son choix. Donc c'est une évolution intéressante. Actuellement, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire d'être bilingue pour officier à la plus haute cour du pays. Donc ça deviendra le cas. Il faudra désormais être bilingue pour pouvoir devenir juge à la Cour suprême. Le pape François met en place une commission sur les femmes diacres. Voilà une autre évolution dans une autre institution très différente, celle-là. Au Vatican, donc, le pape François a nommé aujourd'hui une commission d'étude sur le rôle des femmes diacres au début du christianisme dans une démarche d'ouverture potentiellement historique sur la place des femmes dans l'Église catholique. Intéressant développement, les diacres catholiques, rappelons-le, pour le moment sont des hommes. Ils sont ordonnés pour prononcer le sermon à la messe, célébrer les baptêmes, les mariages et les funérailles, mais ils ne peuvent pas dire la messe. Il faut être un prêtre pour l'Eucharistie, de même que pour la confession. Donc, c'est un premier pas de l'Église, une première ouverture envers les femmes qui sont évidemment privées de rôle dans l'Église, outre le rôle de religieuse, missionnaire et quelques autres rôles que je ne pourrais pas vous citer. Mais néanmoins, donc c'est une annonce qui nous arrive du Vatican sur le rôle des femmes dans l'Église. Voilà pour les nouvelles du jour. On va retourner en musique. On écoute la formation Erad avec une pièce qui s'intitule Fauché et on se retrouve de l'autre côté pour l'agenda culturel.
Je sais, y'a rien qui rush. Un jour à la fois, et tu sauras que la vie est une soie. Mais tout à la fois, aide-moi. Ce sombre éclaire-moi. Je ne vois de lumière. Aide-moi. Ce sombre éclaire-moi. Je ne vois de lumière. Mis à part te fait sombrer ton regard qui me fait sombrer dans le bonheur d'une fée, je sais, je m'y fais.
Formation Erad dans le débrief avec la pièce Fauchée. Il est 16h28. Merci d'être à l'écoute. On va maintenant se tourner vers l'agenda culturel. Quoi faire à Victoria ce soir? J'ai quelques propositions à vous faire. Je vous parle évidemment d'un événement, d'une séance, d'une activité qui se déroule tous les lundis. Ça s'appelle moviemonday.ca. Donc, comme le nom l'indique, ça se déroule le lundi. Et ça fait appel à votre fibre cinéphilique. Donc, Movie Monday, c'est un ciné club qui propose des films tous les lundis à l'angle Lee et Fort. C'est près du Royal Jubilee Hospital ici à Victoria. Et ce soir, on propose un genre de thriller psychologique intitulé The Devout. C'est une œuvre du réalisateur de Victoria, Connor Gaston. Il était épaulé par le directeur C'est écrit par Connor Gaston et c'est réalisé par Daniel Hogg. Les deux sont de Victoria. Ils seront là à la séance de ce soir. C'est à 18h30 comme d'habitude. Donc c'est un film qui parle d'une crise de foi. Ça explore des thèmes entourant la réincarnation, l'amour, la filiation. Ça met en scène une petite fille qui semble être la messagère d'un monde à venir et c'est un petit peu un thriller on va dire spirituel, psychologique. Le trailer est assez la bande annonce est assez bien ficelée. Ça donne envie de voir le film. Donc The Devout, c'est réalisé par un duo de Victoria. Ils seront là, donc c'est à 18h30 au Ciné-Club Movie Monday. Autrement, du côté de Ciné Santa, le cinéma d'art et d'essai du campus de l'Université de Victoria, c'est un film intitulé Dark Horse. C'est inspiré d'une histoire vraie, d'une histoire vécue. Ça relate la décision d'un groupe d'ouvriers prolétaires de se lancer dans la course de chevaux, un sport qui, une discipline qui est vraiment monopolisée par des classes possédantes, les classes aisées, l'aristocratie. Ça se passe en Angleterre. Ce groupe d'ouvriers décide de se lancer dans les courses de chevaux. Ils font l'acquisition d'un cheval et c'est leur cheminement dans ce monde où ils vont réussir à s'illustrer contre toute attente. Dark Horse, donc un long métrage de Louise Osmond. C'est une production britannique de 2015, 87 minutes. Ce sera projeté à 19h et 20h45 à Ciné Santa, le cinéma d'art et d'essai du campus de l'Université de Victoria. Autrement, je vous signale qu'il y a une expo fort intéressante qui a débuté au musée d'art de Victoria, à la Victoria Art Gallery. C'est une expo de poterie chinoise qui a la vedette. Donc c'est du 1er juillet au 18 octobre, c'est encore assez récent. Donc des poteries chinoises servant au service du thé. Donc vous allez avoir toutes sortes de poteries. C'est en stoneware, comme on dit en anglais, donc en grès, céram, très sophistiqué, très joli, du bel artisanat chinois. Certaines pièces sont très anciennes. Donc je voulais vous signaler cette expo qui est en cours actuellement à la Art Gallery of Greater Victoria. Vous trouverez toutes les infos à l'adresse aggv.ca. Voilà pour l'agenda culturel. On retourne en musique de ce pas avec la pièce Si le monde de l'artiste Maud et on se retrouve de l'autre côté pour la revue de presse.
La vie qui traverse nos yeux nous salit. Si le monde est monstrueux, j'y habite, pas le choix. Les jours qui tombent peu à peu nous désunissent, pas à pas. Si le monde est merveilleux, on le brise, pas le choix. Qui souffle nos cheveux, nous engourdit, nous donne froid. Si le monde est ténébreux, on n'y glisse pas le choix. La nuit qui tombe peu à peu nous assombrit pas à pas. Si le monde est glorieux, on s'y grise pas le choix.
choses immondes dont le feu nous habite, nous brûlera. Si le monde est paresseux, on s'enlise, pas le choix.
L'auteur, compositeur, interprète Maud dans Le Débrief. Il est 16h34. On va passer à la revue de presse. On doit accélérer un petit peu. On va devoir se rendre à l'interview dans quelques instants. On a d'abord un texte de Manon Cornelier dans Le Devoir à vous signaler. Ça concerne les fonctionnaires impayés. Oui, vous avez bien entendu, dans notre pays, le Canada, on a un problème de paye qui affecte des milliers de fonctionnaires. Et dans ce texte paru dans les pages éditoriales du Devoir, Manon Cornelier nous renseigne et émet un avis finalement sur cette situation très confuse, inextricable. Je vous en lis un passage. Chaque jour, le gouvernement fédéral doit gérer la paye de près de 300 000 fonctionnaires répartis dans plus de 100 ministères et organismes, le tout encadré par 27 conventions collectives et 80 000 règles. Moderniser la gestion d'un tel monstre ne peut se faire sans rater. Il aurait toutefois fallu limiter les dégâts et faire en sorte que moins de fonctionnaires à statut précaire en fassent les frais. Donc ce texte détaille justement ce qui s'est passé dans cette réforme du système de paye fédéral des fonctionnaires. Il y a eu beaucoup de ratés, comme elle l'indique dans le lead, dans le premier paragraphe de son texte. Je vous recommande, donc c'est dans les pages éditoriales du journal Le Devoir aujourd'hui, c'est signé Manon Cornelier. Autrement, dans ces mêmes pages du journal Le Devoir, il y a une chronique récurrente intéressante que je vous signale pour la première fois, c'est celle de John MacArthur. C'est un Américain de la côte Est. C'est l'éditeur du très réputé Harper's Magazine. Figurez-vous que ce monsieur a une chronique régulière dans Le Devoir. J'imagine que ça l'amuse, c'est un hobby. Ça le distrait peut-être de ses responsabilités chez Harper's. Et ses textes sont proposent des regards sur la politique américaine. Donc c'est une sorte de correspondance qu'il propose aux lecteurs du Devoir. Il signe aujourd'hui un texte sur Donald Trump. Et peux vous dire que évidemment c'est un texte qui n'est pas très favorable au personnage, mais il pose un regard disons distancié, et ce qu'il écrit est intéressant. Donc je vous lis un petit passage. Trump a un vrai problème avec son parti, le Parti républicain, mais ce n'est pas personnel, c'est commercial. On sait en effet, et là c'est moi qui parle entre parenthèses, que Trump déplaît beaucoup à l'establishment du Parti républicain, qui le trouve trop populiste et imprévisible. Donc John MacArthur va dans ce sens. Il estime que le problème de Trump aux yeux de l'establishment du parti n'est pas personnel, c'est plutôt commercial. Ils aimeraient que Trump cesse de s'opposer aux ententes de libre-échange, par exemple, comme l'ALENA, et dans son acronyme anglais, le NAFTA. Il voudrait, cet establishment républicain, que Trump soit davantage ouvert aux relations commerciales, notamment les relations avec la Chine. Il voudrait que Trump se déclare favorable au partenariat transpacifique. Donc, mais Trump a fait le choix de s'opposer à ces mécanismes internationaux de commerce. sans doute pour plaire à la base ouvrière, prolétaire, des gens qui ont perdu leur emploi dans l'industrie en raison justement de la mondialisation. Donc c'est ces gens-là, dit l'auteur MacArthur dans son texte, que Trump veut aller rallier. Donc je vous lis ce passage. Cependant, sans sa guerre contre le libre-échange, Trump n'a aucune chance de l'emporter contre Clinton. La candidate démocrate est associée à tel point aux efforts de son époux de promulguer l'ALENA, sans compter son propre soutien pour les accords commerciaux en tant que sénatrice et secrétaire d'État, qu'une génération entière d'ouvriers accuse les Clinton d'avoir vendu leur emploi à la main-d'œuvre bon marché du Mexique et de la Chine. Chacun de ces ex-ouvriers d'usine est une voix potentielle pour Trump, et ces contradictions, les contradictions de Trump, sont pour la plupart ignorées par ses partisans col bleu. Donc Trump joue la carte populiste. Il s'oppose au traité de libre-échange et à certains travers de la mondialisation. Et ce que MacArthur suggère dans ce papier, c'est que Trump est probablement peu sincère dans ses discours. Il va probablement adhérer après l'élection, s'il est élu, à ces mécanismes de commerce internationaux et ne posera pas d'obstacles à leur fonctionnement. Donc c'est à suivre. Donc autrement, on a voilà, atteint le cadran, la limite de temps imparti. Il faut aller à l'interview, c'est dans quelques instants. Restez à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Emmanuel Brunet-Jailly de l'Université de Victoria à propos de la situation politique et géopolitique en Turquie actuellement. On sait qu'il y a eu une tentative ratée de coup d'État il y a une quinzaine de jours. Eh bien, Monsieur Brunet-Jailly nous propose son analyse dans la foulée de cet événement. C'est dans quelques instants à l'antenne de CILS. Restez à l'écoute. Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9, votre rendez-vous d'info de fin de journée. Le débrief se poursuit. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Emmanuel Brunet-Jailly, professeur à l'École d'administration publique de l'Université de Victoria, où il est titulaire de la chaire Jean Monnet. Bonjour, Monsieur Brunet-Jailly.
Bonjour.
Enchanté de vous avoir encore une fois à l'émission. Aujourd'hui, on parle de la Turquie, pays qui a soudain occupé l'avant-plan de l'actualité en ce mois de juillet 2016. Donc, à partir du 15, le monde a été surpris, étonné par cette tentative de putsch manquée par des factions de l'armée turque. Le chef d'État Erdogan a réussi à reprendre la main. Il y a eu des heures d'incertitude, mais il a pu asseoir son pouvoir rapidement et il a procédé à des purges. Quelles ont été vos impressions dans les heures et les jours qui ont suivi?
Alors, la Turquie, en fait, fait face à une crise interne qui est très importante, qui est probablement une des crises les plus importantes, je dirais, pour le Moyen-Orient aujourd'hui, mais aussi pour l'Europe. Mais qui est fondamentalement une crise interne, dans la mesure où ce que l'on constate aujourd'hui, en dépit de toute la confusion qui a donc suivi le putsch de mi-juillet, raté, c'est le putsch raté de mi-juillet, le oui. coup raté de mi-juillet, c'est que, en fait, deux mouvements politiques s'opposent en Turquie. Un mouvement qui se défend d'être en quelque sorte plus séculaire et plus laïque que l'autre, alors qu'ils sont tous les deux quand même des mouvements qui sont à la fois politiques mais à la fois religieux, et se trouvent coincés en quelque sorte au milieu de tout ça, à la fois l'organisation militaire turque, c'est-à-dire l'armée, dans toute sa splendeur, je dirais, et puis d'autre part tous les groupes civiques, toute l'organisation civique et toute la population turque. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, et on n'est pas sûr encore, on n'est pas encore totalement sûr de qui est derrière l'instigation du coup raté, mais il est vraisemblable que ce coup ait été initié par quelqu'un qui s'appelle Gülen, qui est en fait une personne qui pendant très longtemps a eu a prêché dans des mosquées, en particulier une mosquée bien établie en Turquie jusque dans les années 80, et qui en fait a une influence à la fois, je dirais, théologique, mais aussi sur l'éducation, sur la vie, sur la culture, etc., tout à travers la Turquie. Alors en Turquie, Gülen, on dit qu'il y a environ 1000 écoles Gülen dans le monde, qu'il y a des millions de gens qui suivent en quelque sorte la théologie de Gülen.
Des madrassas gülemistes, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça.
C'est ça. Ils ont une vision très ouverte. Ils sont religieux, mais ils sont aussi très pro-démocratiques, pro-Europe, pro-relations avec l'Union européenne. Et il se trouve qu'ils ont une influence qui va au-delà, je dirais, d'un mouvement traditionnel, un mouvement politique ou religieux traditionnel, dans la mesure où ils ont infiltré ou qui sont présents. Leurs membres sont présents dans de nombreuses institutions turques, comme par exemple au sein de l'armée, au sein de l'éducation, au sein de l'appareil judiciaire. Et ce qui se passe donc aujourd'hui, c'est que si ce mouvement, ou en tout cas certains représentants de ce mouvement au sein de la Turquie, ont en fait déclenché ce coup et ont raté, c'est en particulier pour cela qu'aujourd'hui on constate et qu'on fait face à une purge extraordinaire. Alors, pour vous parler de la purge un tout petit peu, c'est assez impressionnant. Alors, la Turquie, c'est environ 70 millions de personnes et il va y avoir en gros environ peut-être 70 000 personnes qui sont à l'heure actuelle en plein dans la purge. Il y a eu probablement entre 60 et 75 000 personnes qui ont été arrêtées depuis ou démis de leur fonction depuis le coup.
Et qui sont-elles, ces personnes ?
On trouve par exemple en Turquie environ 358 généraux dans l'armée. Il y en a 178 qui ont été détenus, qui ont été arrêtés. Ils sont suivis d'environ 1100 officiers et environ 500 jeunes officiers. Donc il y a aussi, en plus de ça, environ 15 000 personnes qui ont été arrêtées à la fois dans les forces de police et dans les forces de garde aux frontières. Donc ça a un impact fondamental, je dirais, vis-à-vis du régime militaire turc traditionnel et de l'influence, je dirais, à la fois séculaire, mais aussi autoritaire dans la construction de la République turque, en quelque sorte. Et ça, c'est un phénomène, je dirais, qui va transformer en quelque sorte à l'avenir l'influence des militaires en Turquie et qui fait partie de cette purge importante. Alors cette purge est accompagnée de deux autres choses qui me paraissent très intéressantes, mais en même temps un peu qui peuvent faire du souci à beaucoup de gens dans les pays de l'Ouest, en particulier au Canada, mais aussi en Europe. Les médias ont été en quelque sorte on a imposé aux médias depuis quelques jours maintenant la fermeture de très nombreuses stations de télévision. Il y a 16 stations de télévision qui ont été fermées, il y a 23 radios, il y a 45 journaux, il y a 29 maisons de presse qui ont été fermées en Turquie aujourd'hui. Et puis, dernièrement, on apprend aussi que dans le domaine de l'éducation, il y a environ 50 000 personnes. Alors imaginez, en Colombie-Britannique, on a plusieurs dizaines de milliers de gens qui travaillent dans l'éducation. Au Canada, on en a peut-être presque 250 000 ou 300 000, mais il y a 50 000 personnes aujourd'hui en Turquie qui, dans le domaine de l'éducation, n'ont plus de métier. Et ça inclut des centaines de doyens universitaires, par exemple, qui ont perdu en quelque sorte leur position la semaine dernière. Je suis impressionné. Les chiffres que j'ai lus, c'était plusieurs centaines. J'ai aussi trouvé le chiffre de 1500 doyens qui ont perdu leur fonction d'encadrement. Alors pensez à ça, l'université
de Victoria
a 9 doyens.
Oui.
Donc si on regarde tous les doyens qu'il y aurait en Colombie-Britannique, même si on a 10 ou 12 oui. universités en Colombie-Britannique, c'est toute petite partie de ce qui se passerait chez nous. C'est énorme comme chiffre. Chez nous, on aurait 90 doyens qui seraient démis de leur fonction. Il y en a 1500 en Turquie à l'heure actuelle. Donc ces trois secteurs, les médias, l'éducation et l'armée sont affectés par ces
On apprenait aujourd'hui aussi que Erdogan s'attaque à certains capitaines d'industrie. Il y a des entrepreneurs qui ont été arrêtés dans les dernières heures. Ça rappelle l'hostilité que d'autres dirigeants, peut-être comme Poutine, avaient contre certains milliardaires. Je ne sais pas si Erdogan s'attaque cette fois-ci à des milliardaires, mais ça semble être peut-être pas des oligarques de premier plan, mais en tout cas des entrepreneurs assez puissants. Donc c'est peut-être une quatrième catégorie à ajouter aux trois que vous citiez.
Voilà, et il y en a une dernière qui, moi, me paraît très importante aussi. Alors il y a dans le secteur privé, mais ça apparaît qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de chiffres précis, ce sont des capitaines d'industrie.
Oui.
On a trois secteurs qui sont affectés en nombre, qui sont assez extraordinaires. Et puis, il y a tout le secteur juridique, comme je le disais au début. Il y a environ 3000 juges, 2700 juges qui ont été démis de leur fonction. Et alors, ça fait faire du souci, bien évidemment, à tous les leaders politiques du monde occidental, parce que depuis 1923, la Turquie, c'est quand même une république qui a fonctionné en respectant les règles de droit. C'est une république qui a continuellement eu des problèmes vis-à-vis des droits de l'homme, qui a continuellement été en quelque sorte mis au banc des accusés et dont la candidature au sein de l'Union européenne a été ralentie à cause d'accusations de non-respect des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on fait face en quelque sorte à une réorganisation en profondeur, je dirais, de l'appareillage politique de cette république qui est quand même assise sur trois pouvoirs de fond qui sont l'exécutif, un parlement, un exécutif très puissant puisqu'il contrôle le pays. C'est pas un pays fédéral comme le nôtre, mais c'est un pays centralisé comme par exemple l'Angleterre, la France. Donc le gouvernement a énormément de pouvoir pour contrôler les 86 comtés en quelque sorte qui organisent ce pays. Et là, et le parlement est en fait une chambre qui passe les lois, mais là Erdogan a effectivement la majorité depuis maintenant presque plus de 10 ans, et il compte, et le troisième pilier de ce système politique, c'est quand même les cours, les juges, qui sont maintenant dans une situation en quelque sorte d'être sur la défensive. Donc ça cause tout un ensemble de problèmes et ça pose effectivement ça amène à énormément de confusion.
Tous ces gens-là ne sont pas impliqués dans le coup. Alors, ils sont arrêtés pour simplement peut-être des sympathies supposées. Ils sont soupçonnés, mais c'est suffisant pour les faire arrêter et mettre fin à des carrières dans plusieurs cas.
Oui, alors on ne sait pas de manière très très claire comment ça va se manifester, mais c'est sûr que il est clair aujourd'hui que la position de Erdogan là-dessus est assez extraordinaire. Il renforce le pouvoir central du pays. Il veut arriver à une transformation de la constitution, et ça me paraît difficile à voir parce que Il lui faudrait environ 370 des 500 et quelques sièges qu'il y a dans le Parlement pour pouvoir arriver à faire passer une telle réforme. Mais il renforce quand même son pouvoir de manière extraordinaire en tant que président, alors qu'il a un rôle, d'après la Constitution, un rôle simplement symbolique. Et je dirais, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est ce non-respect des droits de l'homme depuis la création de la République de Turquie, le fait qu'il y a depuis très longtemps des problèmes, en particulier avec certaines minorités turques, en particulier les minorités turques, kurdes de Turquie, et que depuis les années 90, par exemple, on a documenté la destruction systématique d'environ 4000 villages kurdes dans l'espace kurde de la Turquie. Mmh. Et donc, une situation qui rend ça, je dirais, qui rend cette situation extrêmement, extrêmement difficile. Il y a aussi le fait qu'il y a plus de 2 millions d'immigrants d'origine syrienne en Turquie aujourd'hui, et que la Turquie a en quelque sorte utilisé ce phénomène pour convaincre l'Union européenne de l'aider à éviter qu'elle soit un tremplin d'entrée, ouais, vers l'Union européenne. Alors, ce sont aujourd'hui, juste pour mettre ça en perspective, la Turquie a quand même un accord à l'heure actuelle signé depuis l'automne dernier de 4,4 milliards de dollars canadiens. C'est quand même une somme assez considérable pour organiser le filtrage, en quelque sorte, oui, de ces populations migrantes. Et puis, je dirais, il y a un dernier élément qui me paraît très important et qui a une implication économique, c'est que depuis que la Turquie durcit ses relations avec certains secteurs, je dirais, du pays, comme par exemple les médias, eh bien, il y a une chute énorme du tourisme en Turquie. C'est l'une des industries, je dirais, qui apporte énormément de ressources en Turquie depuis une quinzaine d'années. Et depuis deux ans, donc depuis environ 24 mois, depuis le début de la crise syrienne, les flux de touristes qui vont en Turquie, qui étaient environ à 45 millions de personnes, sont en chute libre et à l'heure actuelle, on est dans la période où il devrait y avoir le plus de touristes de l'année, on est à moins 50% de nombre de touristes qui viennent. Donc la Turquie fait face en même temps à une crise économique et politique assez extraordinaire.
Les Turcs sont un petit peu entre la peste et le choléra. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ?
Alors, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui en Turquie, en quelque sorte, deux grands mouvements ou deux conceptions de la Turquie qui s'opposent.
Oui.
Elles sont représentées au sein du Parlement. Et c'est ça, je dirais, qui fait le drame politique de ce coup manqué, mais qui fait le drame politique de l'existence même du coup. C'est que, avec un durcissement du gouvernement en place, la capacité que Erdogan a renforcé son pouvoir et à centraliser son pouvoir et en même temps à contrôler les militaires, il organise d'une certaine manière une république autoritaire au lieu d'être vraiment ce qui est dans la constitution turque, une république parlementaire. Et donc il y a toute une partie de la population turque qui se sent exclue. Et il y a effectivement des voix, des observateurs, je dirais, de la politique turque qui font partie, par exemple, des mouvements de respect des droits de l'homme, etc., et qui siègent, par exemple, soit en Amérique du Nord, soit en Grande-Bretagne, qui tirent la sonnette d'alarme sur ce phénomène-là depuis environ 2-3 ans, et qui disent que ce durcissement, en fait, amène la Turquie, en quelque sorte, à être divisée. Et il y a une profonde, oui, division politique au sein, je dirais, de la population turque. Alors ce qu'il faut aussi comprendre et qui est assez extraordinaire, c'est que Erdogan a quand même un soutien populaire, je dirais populaire, de la population turque, je dirais des
classes
moyennes, de l'homme de la rue, qui est, oui, très fort. Ce qu'il a, oui, sauvé à l'occasion du coup, c'est qu'il a envoyé un texte par téléphone, en quelque sorte, à tous les gens qui sont dans son mouvement à lui, son mouvement politique, et il y a eu, en quelque sorte, un soulèvement populaire extraordinaire qui a amené à, quand même, pour ainsi dire, plusieurs milliers de personnes ont été blessées, il y a environ 300 personnes qui sont mortes, qui ont été tuées par l'armée, au moment où elle se déplaçait pour en quelque sorte prendre possession et contrôler le pays. Et donc il y a eu un mouvement de foule très très fort qui s'est mis en place et qui a sauvé en quelque sorte la République. Mais c'est une indication aussi de ce schisme, de cette brisure au sein même de la population turque qui rend bien sûr la crise à la fois, je dirais, très intéressante et passionnante, mais aussi comme un phénomène à la fois pour le Moyen-Orient, pour l'Europe, moins pour le reste du monde, mais certainement pour l'Europe, dramatique, qui se rajoute à la crise des migrations que connaît aujourd'hui la Syrie et qui en quelque sorte transforme la politique à la fois turque et dans d'autres pays comme par exemple au Liban et en Jordanie.
D'accord. Monsieur Brunet-Jailly, c'est tout le temps dont on dispose aujourd'hui. Merci pour cet éclairage post-tentative de putsch qui a ébranlé la Turquie le 15 juillet. Les conséquences et les remous subséquents. Merci pour cet éclairage. Au plaisir de se retrouver prochainement dans le débrief.
Grand merci. Bonne journée.
C'était Emmanuel Brunet-Jailly.